Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Bethléem Hickman et Michel Bédard. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Troisième Planète, où on vous parle d'environnement et de société sur CKIA 88.3. Alors, vous avez sûrement assisté à un festival cet été de musique, un festival sportif, un événement. Et puis, un bon auditeur de Troisième Planète, vous êtes sûrement posé la question de savoir quel est mon impact environnemental quand je suis festivalier. Moi, je m'amuse, mais quel impact ça a sur la planète? Alors, pour nous en parler aujourd'hui, on accueille Marie-Claude Dufour, qui est fondatrice et directrice chez Écologistique. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, l'objectif d'Écologistique, c'est d'aider les organisateurs d'événements à être plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on conçoit un événement? On part de zéro, puis on se dit « je veux faire un événement qui est éco-responsable ».
Ah d'accord, ça c'est la grande question que la plupart de nos clients ou la plupart des promoteurs qu'on rencontre nous posent. Donc, un événement éco-responsable, avant tout, c'est un événement dont les promoteurs ont la volonté de tenir compte de leur impact autant positif pour les mettre en valeur et les améliorer que leur impact négatif. Ce qui fait en sorte que un événement éco-responsable, on va travailler sur différentes sphères pour diminuer ces impacts négatifs-là, dont le recyclage. On parlait tout à l'heure de festivals sportifs, de festivals XYZ. Donc, on retrouve souvent de la consommation. Donc, le recyclage, l'alimentation, le choix de l'alimentation, les transports, comment les festivaliers se déplacent pour venir à notre événement. Donc, c'est vraiment là, de toucher à tous les sphères de l'événement, et ce, pendant tout son processus de planification.
Est-ce que ça veut dire quand même le choix de la date ou du lieu, ou même de la programmation elle-même, peut avoir un impact environnemental différent là?
Peut avoir un impact. Effectivement, toutes les décisions que le promoteur d'événement va prendre peut avoir un impact. Effectivement, nous à ce moment-là, ce qu'on suggère, c'est de toujours avoir une personne qui va gouverner le projet, si on veut, qui va gouverner l'aspect développement durable et qui va permettre tout au long du processus de planification et du processus décisionnel de soulever des drapeaux quand c'est le temps et quand il le faut.
Ouais. Alors les choses qui sont, tu en as parlé, assez instinctives, là, les déchets, on y pense assez facilement. C'est un truc qui vient à l'esprit, mais il y a des choses qui sont moins évidentes.
Oui, j'ai nommé un petit peu aussi le choix de l'alimentation. Donc, on suggère aussi aux promoteurs d'événements d'intégrer lorsqu'ils font ils font la création de menus des produits locaux. Donc, c'est chose un peu plus bon. Vous allez me dire qu'au quotidien aussi, c'est évident, mais ça fait partie d'une des choses. Il y a plusieurs petites, au niveau de la publication, de la promotion, tous nos produits promotionnels, est-ce qu'ils sont éco-responsables? Donc, c'est vraiment de repenser un peu, de tout repenser notre événement.
Alors, pour aider ces organisateurs, vous êtes là, mais il y a aussi des outils qui existent. Je crois qu'il y a une norme, c'est ça? Il y a une norme spécifique?
Oui, il y a plusieurs outils et il y a plusieurs normes qui existent à travers le monde. Entre autres, pour les gens qui veulent commencer à intégrer l'éco-responsabilité, je les suggère fortement d'aller sur le site internet du Conseil québécois des événements éco-responsables. Et il y a plusieurs outils pour commencer. Il y a des guides pour commencer à intégrer l'éco-responsabilité. Et quand on est un petit peu plus avancé, si on veut, dans la notion, là, on peut se rendre jusqu'à une classification ou une certification quant à une norme. Il y a la norme québécoise qui existe, la norme en gestion responsable d'événements du BNQ. Il y a une norme internationale et plusieurs autres.
Alors, justement, ces normes, elles privilégient justement des domaines où on doit s'améliorer. Tu en as parlé un peu sur l'alimentation, le fait de choisir des aliments qui en provenance de prestataires locaux, des aliments de saison, ce genre de choses. Quels sont les autres éléments qui sont pris en compte justement pour monter dans la classification de...
Oui, chaque norme est différente, mais celle du BNQ, donc du Bureau de normation du Québec, elle est basée sur un système de pointage, donc sur 5 grands axes. Donc, on a l'axe quand le promoteur sélectionne justement ses aliments, quand le promoteur gère ses transports, quand le promoteur, la gestion des matières résiduelles, on en a parlé tout à l'heure, les sources d'énergie ou de l'eau. Aussi, c'est une chose importante qui est à prendre en considération. Est-ce que, par exemple, pour des festivals, il y a encore plusieurs festivals qui fonctionnent avec des génératrices. Donc là, on essaie de trouver des solutions pour de l'énergie un peu plus renouvelable.
Donc l'idée, c'est de supprimer le diesel, là, c'est
ouais.
ça?
Oui, exactement. Ouais. Puis, on a le dernier aspect qu'on travaille, c'est l'aspect de la sélection des fournisseurs. Mm. Donc, ça, c'est un aspect plutôt social. Donc, est-ce qu'on va encourager des OBNL? Est-ce qu'on va sélectionner des fournisseurs qui, eux-mêmes, font attention à l'interne chez eux?
Ouais, donc en fait c'est la chaîne. Si on fait appel à des fournisseurs qui sont eux-mêmes responsables, du coup ça fait une
oui,
chaîne
ça
totalement
ça. Ça nous aide, ça nous appuie.
Ouais. Toi, tu as travaillé sur tu as parlé de l'alimentation. C'est l'un des aspects de la norme qui peut être a priori l'un des plus compliqués parce qu'il n'y a pas forcément les fournisseurs existant pour répondre à la demande?
Effectivement, c'est un volet au niveau de la norme, l'alimentation, qui est très difficile pour nous d'atteindre en tant que conseiller, en tant que promoteur aussi d'événements. Mm-hmm. C'est sûr que la norme, on connaît les normes, là, comment ça se procède. Ça a été monté avec un comité X, Y, Z, voté, puis après, ça peut être modifié à X moment. C'est sûr que là, en ce moment, on est en train de vivre un peu la situation, puis on se dit que, bon, c'est pas l'idéal, puis effectivement, ce qui arrive, c'est que les traiteurs veulent pas nécessairement nous transmettre toutes les informations que la norme exige, les preuves exigent, parce que c'est leur travail, on les comprend. Mm. Donc, effectivement, moi, ça m'est arrivé par le passé quand même d'avoir un ou deux traiteurs qui me transmettent les informations, mais c'est plus délicat, effectivement.
Il y a ça aussi, puis il y a le fait que ben forcément c'est un événement, donc c'est ponctuel, et puis on a l'impression qu'on ne peut fabriquer des choses ou faire des choses qui ne peuvent durer que le temps de l'événement, donc c'est quasiment anti-développement durable un événement qui ne dure qu'une journée. Est-ce qu'il y a des parades pour justement essayer de faire en sorte que ben, ça soit un peu réutilisable quand même?
C'est une autre de nos défis, si on veut, là, de vraiment repenser notre liste de autant de matière qui est consommée. Donc, nous, on travaille avec nos clients pour ça. C'est qu'on s'assoit avec lui, on dresse tout la liste de qu'est-ce qu'il envisage produire pendant son événement. Puis, on essaie d'y aller selon les 3 RV. Donc, est-ce que ce produit-là, je peux y aller avec quelque chose qui se loue? Ou que je pourrais fabriquer, mais que je pourrais réutiliser d'année en année. Donc, c'est vraiment de revoir toute sa liste de qu'est-ce qu'il consomme. Puis, on essaie de voir est-ce qu'on peut s'en passer, est-ce qu'on peut y aller avec le louer du réutilisable, etc.
Bon. Donc, beaucoup de travail en amont.
Oui, exactement. Vous venez de le dire, c'est vraiment la clé du succès, là. C'est de travailler en amont, puis dès le début.
Oui, c'est ça, dès la conception de l'événement, parce que le choix du matériel, etc., c'est vraiment au tout début, là.
Exactement.
Bon. Est-ce que... Ben, on a parlé justement de l'organisateur, de son choix de production, etc., d'infrastructures, mais il y a aussi la responsabilité du festivalier quand il arrive sur place, le fait qu'il ait les bonnes actions, puis les bonnes actions en tant que festivalier. C'est aussi la responsabilité de l'organisateur de faire en sorte qu'il ait les services à disposition, puis l'information disponible.
Exactement.
Pour qu'il ait les bons gestes. On en entend de plus en plus parler, là, des films, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui marche plus que d'autres pour faire en sorte que la canette soit mise au bon endroit?
Ce qu'on suggère, c'est vraiment la sensibilisation éducative. Donc, la sensibilisation qui va amener le festivalier à s'amuser, ou qui peut même amener le festivalier à lui rapporter quelque chose lui personnellement. Mm-hmm. Donc c'est pas toujours facile, mais on essaie d'orienter nos messages et nos si on veut façon de faire. À la limite, on peut installer un basket au-dessus du bac de recyclage. Mm-hmm. Donc on sait automatiquement que tout le monde va recycler leur canette. Donc on essaie de créer. T'sais, c'est sûr que
c'est pratiquement comme des enfants.
Oui, et ouais, exactement. On est dans un mode de création et de innovation aussi là, beaucoup avec le développement durable dans les événements. C'est toujours de créer des nouvelles choses qui vont permettre que ça fonctionne. Puis ça reste ponctuel, ça reste un site d'amusement. Là. Donc on essaie d'aller dans cette courbe-là.
Bien. Bon, on va se faire une petite pause déjà.
D'accord.
Avant de passer à la suite, on va écouter Marcia Baila de Rita Mitsuko.
Yo.
On est de retour dans Troisième Planète sur CKIA 88.3 avec Marie-Claude d'Écoléustique. Et cet été, elle a eu l'honneur de travailler pour le festival d'été que vous connaissez tous. Dis-moi un peu ce que vous avez fait pour le festival.
Oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, on a eu l'honneur de travailler avec le Festival d'été. On était vraiment contents. Notre travail, entre autres, c'était vraiment de tout planifier, de tout coordonner, tout l'aspect gestion des matières résiduelles. Ce qui veut dire, donc, l'installation d'un système de recyclage, de compostage dans l'événement.
Donc, un mini centre de tri.
Un mini centre de tri tout. On avait tout sur place. On avait même un convoyeur sur place. Le convoyeur nous permettait de retrier, de trier avant de partir en centre de tri les sacs de recyclage pour éviter qu'il y ait des taux de contamination trop élevés. Donc, on avait vraiment tout...
Tu veux nous expliquer un peu c'est quoi un taux de contamination?
Un taux de contamination, effectivement, je peux l'expliquer. Donc, un taux de contamination, là, c'est en fait quand on a un bac de recyclage, il y a des choses, des déchets ultimes qui se retrouvent à l'intérieur de notre bac de recyclage par soit manque d'information ou justement dans les événements, ça va vite et on trouve pas la poubelle, donc on met notre déchets dans le bac de recyclage, ce qui fait en sorte que le taux de contamination, c'est le pourcentage de matières qui sont
pas recyclables
ouais. Dans le sac, en fait, dans le recyclage qu'on retrouve. Dans les événements, on a des taux de contamination, c'est sûr, plus élevés qu'à la maison, dû à la ponctualité, à la rapidité. Donc, on fait toujours un pré-tri sur place, sur le lieu de l'événement, avant de l'acheminer vers un centre de tri, parce que sinon, dans quelques pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est souvent refusé, dû au fort taux de contamination.
Donc, c'est refusé et donc, du coup, c'est renvoyé retour à l'envoyeur, dans ce cas-là?
Retour à l'envoyeur.
D'accord. Bon. Et donc un mini-centre de tri, qu'est-ce qui a été en majorité, je suppose que ce qui a été retrié ou recyclé, c'est les canettes, c'est ça?
Ce fut les canettes, effectivement. On a eu beaucoup, beaucoup... Les matières, c'était les canettes et le plastique. Donc, ça a été ça, les canettes plastiques consignées aussi, qu'on a ramassé beaucoup. Puis, carton aussi, tout ce qui est concession de bière. Il y avait une grosse production de carton. Donc, ça a été vraiment nos trois favoris, si on veut, du festival d'été. Là.
D'accord. Et en termes de tonnes ou de volume, qu'est-ce que ça représente? On a donné une idée, là?
Oui, c'est sûr que là, en ce moment, on travaille sur le bilan.
Ouais.
On n'a toujours pas rencontré les gens du festival d'été, donc je ne voudrais pas dévoiler les chiffres, mais du moins, on peut dire qu'on est content. Là, on a réussi à valoriser 60% des matières qui étaient générées là, sur le site, ce qui est très bon pour un événement, là.
D'accord. Et en termes de, par rapport à une consommation, je dirais, d'un ménage, un festival, ça représente combien, juste pour donner une idée des déchets générés par le festival d'été, là?
C'est très variable, mais on peut dire que si on se fait une image, là, un événement d'une journée peut consommer entre 1 et 4, 5 tonnes,
d'accord,
selon l'ampleur de l'événement, là. Donc, tonnes, pour vous donner une autre idée.
Ouais.
Bon, je suis vraiment dans l'estimation, mais une tonne, ça peut représenter un éléphant moyen.
D'accord.
Donc, c'est une image que je peux...
Donc, beaucoup d'éléphants.
Beaucoup d'éléphants, c'est ça.
Donc, un mini-centre de tri, vous avez... en fait, vous travaillez comment, de nuit ou quand le festival? Est-ce que c'était en permanence, hein? C'était des shifts de 8 heures? Comment ça s'organisait?
Effectivement, on travaillait en permanence. On était 24 heures sur 24, mais pas tout le monde 24 heures sur 24. Mais
dormiez,
dans les déchets. On avait trois différentes équipes.
Ouais.
Donc, l'équipe de nuit était responsable de ramasser les matières au sol après le spectacle.
Dur.
Oui, c'est un gros défi, une grosse partie de notre travail.
Ouais.
Mais je suis très fière de mon équipe et on a travaillé très, très fort et on y est arrivé. Donc, cette équipe-là ramasse les matières au sol. J'ai une autre équipe qui arrive dès 8 heures le matin, de jour, qui, eux, font le tri des matières qui ont été récupérées pendant la nuit. Et j'ai ma troisième équipe qui est pendant les spectacles, qui, elle, va temporiser les bacs qui se remplissent, le compost et tout ça à droite et à gauche. Là. Donc, c'est vraiment sur trois quarts de travail.
D'accord. Et tu as parlé de compost, justement. Il y a une partie des déchets qui ont été qui sont compostables.
Oui, effectivement, cette année, on avait comme objectif au festival d'été d'augmenter le nombre de matières compostables et compostées. Donc, effectivement, on a travaillé plus au niveau des loges et du corporatif pour mettre des bacs de compost et de l'affichage et tout ce qu'il faut pour signaliser aux gens qu'est-ce qui se composte et tout ça. Puis on succès quand même à ce niveau-là. Encore une fois, pendant tout l'événement, on a composté une tonne de compost qui est partie chez un composteur à Lévis.
D'accord. Et le reste, justement, tu parlais de ça, c'est parti à Lévis. Le reste, ça part où finalement? Parce qu'on trie, on met dans les sacs et puis après.
C'est ça. Tout ce qui est plastique, carton part vers le centre de tri.
Ouais.
Puis les canettes vont chez un recycleur à part là. Donc c'est vraiment à part. Lui, il reçoit que les canettes, que l'aluminium. Il traite ça. Et puis tout ce qui est plastique, carton vers le centre de tri.
Finalement, l'étape d'après, parce que c'est intéressant, l'aluminium, ça redevient de l'aluminium.
Effectivement, c'est intéressant parce que j'ai moi-même, je n'avais pas vu de mes yeux le processus, mais je suis allée à Oshiaga le week-end passé, puis il y avait une fille qui faisait la sensibilisation et qui nous montrait tout le processus. Puis effectivement, c'est mis en ballot, en gros ballot, c'est refondu. Puis ils refont des canettes avec ça, là, donc c'est assez simple.
Ouais, c'est plus compliqué pour le plastique et le carton.
Effectivement, ouais. Parce qu'on a différentes composantes dans les plastiques, donc c'est des processus plus compliqués, plus complexes.
Et ici au Québec, donc ça se passe où le plastique? Il y a une usine à Québec?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une usine qui transforme le plastique?
Ouais.
Je ne suis pas au courant, j'en ai pas l'information malheureusement jusque-là, parce que ça bouge tellement vite aussi dans la sphère des centres de tri. Aujourd'hui là, je pourrais pas vous dire si quelle usine au Québec le transforme le plastique. Je sais qui la trie et qui la revend, mais je sais pas qui la transforme.
D'accord. Tu m'en as parlé aussi pendant la pause des gaz à effet de serre. Ça, on n'a pas du tout parlé pour l'instant. Qu'est-ce qui génère des gaz à effet de serre quand on organise un festival?
C'est à peu près tout. C'est pas seulement que le déplacement du festivalier. Il faut penser aussi que la consommation d'énergie, derrière cette consommation-là, il y a des gaz à effet de serre qui sont produits. C'est vrai.
Et c'est pas la même chose si on utilise l'électricité d'Hydro-Québec ou si on utilise un générateur.
Exactement. C'est ces petits détails-là. Plein de choses super simples. Même la confection d'un produit X, Y, Z peut engendrer plus de gaz à effet de serre qu'un autre produit. Donc, ça peut aller très, très loin, la production de gaz à effet de serre. Là.
Donc, comment vous avez réussi à... Là, vous avez fait un bilan.
Oui.
Comment vous prenez pour faire un bilan? Il y a tellement de paramètres.
C'est sûr que c'est une expertise. Donc, nous, on est habitués de faire ça. Puis, c'est vraiment... C'est assez simple. On a des grilles que l'on remplit tout au long du festival. Donc, on recueille des données.
Ouais. Et puis la consommation d'énergie.
Consommation d'énergie au niveau de la gestion des matières résiduelles. Bien, c'est sûr qu'on va prendre tout ce qui est les poids de tous les containers qui sont sortis du site. Donc, c'est toutes ces données-là qu'on rentre dans notre grille au fur et à mesure de l'événement.
Là, tu parles de containers avec le poids, et ça génère des gaz à effet de serre?
Non, je pensais qu'on parlait seulement du bilan, recueil de données, excusez-moi, mais j'étais partie sur un autre axe, mais ça génère pas... Le transport des matières va générer des gaz à effet de serre.
Bien. Et puis il y a le déplacement des festivaliers, ça on arrive à évaluer, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, puis comment ils viennent jusqu'au festival.
Oui, on arrive à, selon l'ampleur de l'événement, il y a plein de modes pour calculer les gaz à effet de serre. Un petit événement, ça peut être très, très simple. Ça peut être intégré à la table d'accueil. On pose la question. À ce moment-là, on entre ça dans une grille qui nous donne le ratio. Puis pour les grands festivals, ouais, là, c'est sûr, ça va être un système d'échantillonnage. Donc, on va vraiment procéder de cette façon-là. Ça va être différent.
Donc, on va poser la question à un échantillon de personnes. Puis
un nombre X selon le standard de l'échantillonnage. Puis, ça va nous donner nos rapports.
Et puis, pour le festival d'été, là, du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Québec ou...
C'est sûr que oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur de Québec, mais cette année, on n'a pas travaillé sur le bilan carbone. On a fait de la sensibilisation, mais ce ne fut pas un objectif qui a été retenu, là.
D'accord. Justement, on parle des festivaliers. Quelques conseils ou recommandations pour être un bon festivalier éco-responsable?
Ne pas jeter ses canettes par terre. Non, c'est tout simple. C'est seulement d'être alerte aux messages qui sont véhiculés, puis de participer, si on veut, activement, d'aider, en fait, le promoteur à atteindre ses objectifs. Par exemple, au niveau du recyclage. Donc, si le promoteur met beaucoup de recyclage en place, donc de prendre la peine de le faire, de dépenser poser les matières au bon endroit. Donc, en tant que festivalier, je dirais vraiment d'être alerte, à l'écoute, puis de
suivre les consignes.
Exactement. Beaucoup de promoteurs aussi font la promotion des transports actifs et collectifs. Donc, d'être alerte à ça, puis de dire, ah oui, aujourd'hui, hein, finalement, je pourrais peut-être y aller en vélo. Donc, c'est vraiment d'être ouvert, alerte, et écouter ce qui se passe à ce niveau-là.
On a parlé du festival d'été, mais vous avez d'autres projets chez Écologistique qui s'en viennent?
Oui, effectivement. Cet été, on travaille encore parce qu'on a travaillé avec eux l'année passée, le Festibière. Le Festibière a pris son virage vert l'an dernier avec nous. Et puis cette année, on a intégré des actions éco-responsables. On travaille aussi avec Bordeaux Fête le Vin, Bière et Saveur de Chambly et tralala.
D'accord. Elle fait si bien, justement, je crois qu'il y a le principe du gobelet qu'on garde pendant le festival, non?
Le festibière, mais c'est sûr qu'à la base, à la base, il y a le principe du verre réutilisable. Donc ça, c'est quelque chose déjà de gagné pour nous. On est très contents. Maintenant, cette année, avec le festibière, on est plutôt dans un objectif de compost. Donc, d'accord, on fait un projet pilote pour intégrer le compost au festibière. On va essayer d'intégrer cet aspect-là, là, cette année-là.
Bon. Et sur les autres projets, des choses innovantes?
À brûle pour point comme ça, je vous dirais qu'on est juste cet été là, on est vraiment très très concentré sur les gros événements qu'on a eu. Là, on est dans la période bilan, donc j'ai pas un esprit très innovante et on est encore dans notre été là, donc tout est à venir.
Bon. Eh bien, ça fait bien plaisir de te recevoir et puis d'avoir ces informations. Je suis sûre que ça a intéressé beaucoup les auditeurs de savoir ce qui se passe avec leurs déchets quand ils vont au festival, surtout au festival d'été. On va terminer là-dessus et on va se retrouver le 28. Je vais me prendre une petite pause. Voilà. Et on sera avec l'Université Laval qui va nous parler de leur plan de développement durable.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux.